22 novembre. Maintenant, je suis seul. Il y a bien 6 mois que cela ne m'est pas arrivé, du moins dans de telles conditions, et je pense à mon activité d'ici. Mauvais phare pour me dissimuler à moi-même mon effroi persistant et croissant devant la mort, devant la vieillesse et même devant la vie. L'existence ascétique que je mène ne me dispense aucun paradis enfantin. Elle ne me pétrifie pas, ne me fixe pas dans la liquéfaction pourrissante de la vie. Avec mon casque, ma chemise kaki, ma culotte de trappeur, je reste le même homme d'angoisse que certains considèrent comme un bon type, à la fois tranquille et pittoresque, une sorte de bourgeois artiste. Autant qu'un tel jugement, il n'y a rien qui m'humilie, et je reste bêtement sensible au jugement des autres. Je dispose pourtant de bien des tonnes de mépris. Se distraire, une plume à la main, moraliser, philosopher, scienticailler, pour moi c'est tout un. C'est la même déficience. Malheur à qui n'exprime pas l'inexprimable, ne comprend pas l'incompréhensible. J'ai horreur de ce monde d'esthètes, de moralistes et de sous-offres. Ni l'aventure coloniale, ni le dévouement à la science ne me réconcilieront avec l'une ou l'autre de ces catégories. Mars. Levé à l'aube. La civette que Lutène a laissée en partant hier soir, faisant une vie de tous les diables, par exemple grimper sur le toit de ma moustiquaire en geignant pour rentrer dans le lit. Le cafard s'accentue. J'ai engraissé. J'éprouve une ignoble sensation de pléthore. Moi qui comptais rentrer d'Afrique avec l'allure d'un de ces beaux corsaires ravagés. La vie que nous menons est on ne peut plus plate et bourgeoise. Le travail, pas essentiellement différent d'un travail d'usine, de cabinet ou de bureau. Pourquoi l'enquête ethnographique m'a-t-elle fait penser souvent à un interrogatoire de police? On ne s'approche pas tellement des hommes en s'approchant de leurs coutumes. Ils restent, après comme avant l'enquête, obstinément fermés. Puis-je me flatter, par exemple, de savoir ce que pensait Ambara, qui pourtant était mon ami? Je n'ai jamais couché avec une femme noire. Que je suis donc resté européen. À 9h30, la caravane atteint une faille remplie d'eau qui surplombe une roche dont la forme rappelle un peu celle d'une tête de caïman. Sur cette roche, traces blanches laissées par le mélange de farine de mil et de noix de cola délayées dans de l'eau qu'à chaque hivernage on y verse rituellement. Sous le rocher, nous ramassons une corde, attache du mouton que tous les ans, à la même époque, on sacrifie au caïman, dont les guides disent que la mare est remplie. La découverte de ce bout de corde me comble de joie, car je commence à entrevoir ce qu'il y a de passionnant dans la recherche scientifique. Marcher de pièce à pièce à conviction, d'énigme à énigme, poursuivre la vérité comme à la piste.
Denise Polme-Scheffner, vous avez connu Léris, Michel Léris, à son retour de la mission Dakar-Djibouti. Vous étiez à l'époque au Musée de l'Homme.
Je travaillais à l'époque au Musée de l'Homme comme étudiante et bénévole, encore fort timide bien sûr, et la figure de Léris dont j'avais entendu parler m'impressionnait beaucoup. Donc je l'ai connu à ce retour de la mission Dakar-Djibouti qu'il avait accompli durant 2 ans. Il avait tenu éloigné de Paris pendant 2 ans avec ses collègues et notamment Marcel Griol qui dirigeait l'expédition et André Scheffner que je connaissais bien, qui était musicologue et qui avait participé à la mission mais qui était rentré beaucoup plus tôt que ses amis. Donc
Et qui allait devenir votre mari.
Et qui devait, nous devions nous marier en 37.
Quelle était son attitude à son retour de cette mission qui était très longue?
Je dois dire que moi, il m'impressionnait beaucoup, évidemment, parce qu'il avait l'aura du voyageur et l'aura de l'écrivain, dont je savais encore déjà tout de même à peu près la position comme surréaliste. Je dois dire que c'est un peu difficile à dire, que j'ai le souvenir qu'il parlait très peu, en fait. Il faut dire qu'une absence de 2 ans dans les conditions où il l'avait vécu l'avait évidemment complètement coupé de Paris et de son milieu, et qu'on le sentait encore un peu absent, si vous voulez. En réalité, j'ai vraiment connu Léris, et nous sommes devenus beaucoup plus intimes, lorsque moi-même, je suis parti. C'est vrai que nous nous sommes trouvés donc séparés. Je suis parti et je me suis retrouvé chez les Dogons, donc dans la société où lui-même avait séjourné, où il avait collecté des objets, et tout naturellement, c'est à lui que mon amie Deborah Lifshitz, avec laquelle j'ai partagé ce séjour, et moi-même lui écrivions, nous lui demandions quelques services et nous lui rapportions également les progrès de notre enquête.
Lorsque vous êtes allé en Afrique en mission, vous êtes retourné sur les mêmes terres que Michel Léris, en pays Dogon.
Oui.
Et là, vous avez retrouvé certains de ses informateurs.
J'ai retrouvé ces informateurs qui m'ont parlé de lui. Ils en avaient gardé un souvenir très vivant, comme un ami, vraiment. Et d'une façon qui vraiment m'a beaucoup touché. Et qui m'a certainement aidé, car ça a été une sorte d'introduction auprès d'eux, si vous voulez. Je n'étais pas totalement une inconnue puisque je venais de la part de celui qui s'était montré leur ami.
Étudier les cartes de la région et un livre prêté par l'administrateur. Attendu la sortie d'une petite chauve-souris entrée par mes gardes dans mon compartiment, écrit les derniers paragraphes de ce journal, et couché.
Léris était parti comme, en principe, secrétaire archiviste de la mission. C'était son titre. Et il tenait alors le journal de la mission, qui est devenu par la suite l'Afrique fantôme. Chaque soir, il disait à ses compagnons le récit de ce qu'il avait pu écrire en la journée. Mais très vite, on le sait, le journal de la mission est devenu, en fait, le journal personnel de Michel Léris. Et le résultat a été celui que nous avons aujourd'hui. L'Afrique fantôme est, à mon sens, un livre magnifique qui peut constituer une sorte d'initiation pour beaucoup des jeunes ethnologues qui partent aujourd'hui sur le terrain. Le livre était dédié à Marcel Griol, qui était le chef de mission, mais lorsque celui-ci l'a eu entre les mains au moment de la publication, il a été assez inquiet, car il faut bien dire que Léris, souvent, n'était pas tendre pour l'administration coloniale et la façon dont elle se conduisait à l'égard des indigènes. Il y a donc eu à ce moment-là une rupture entre les deux hommes et Léris en a été très affecté. Ils ne se sont jamais réconciliés. Le livre a été mis au pilon par Vichy durant l'occupation, ce qui tout de même est une mesure assez sévère pour un livre qui, mon Dieu, en principe ne devait pas toucher un public tellement étendu. Néanmoins, il a été par la suite réimprimé et aujourd'hui c'est véritablement un des classiques sur l'Afrique à l'égard, peut-être pourrait-on dire, du cœur des ténèbres de Joseph Conrad.
Parmi les injustices sociales, enfin qui sont très nombreuses et très fortes et qui peuvent révolter, ben, celle qui m'a toujours le plus révolté, c'est l'injustice coloniale. Le mépris qu'ont des gens mais qui se trouvent tenir le haut du pavé parce qu'ils sont peut-être de meilleurs industriels que d'autres, c'est tout, de meilleurs mécanos, enfin, je dirais presque, ce mépris enfin, dont ils écrasent des gens au moins aussi civilisés qu'eux, enfin, d'une façon différente, et qui, à beaucoup d'égards, pourraient leur donner des leçons. Quand on enseigne enfin un jeune ethnologue, qu'est-ce que lui apprennent ses maîtres? C'est qu'il faut qu'il soit en bon terme, qu'il ait des rapports, en somme, sinon amicaux, du moins cordiaux, avec les gens qu'il étudie. Bien. Alors, si j'ai ces rapports cordiaux avec eux, et que ça reste une chose de pure surface, je suis le dernier des hypocrites. Donc je crois que si j'ai ces rapports extérieurement cordiaux, il faut aussi qu'ils le soient profondément. Donc, de fil en aiguille, je suis amené à épouser les soucis, les revendications des gens que j'étudie. Vous savez, c'est seulement depuis quelques années que je m'aperçois que l'ethnologie est pour moi un peu plus qu'un second métier. Pendant des années, ça a été simplement le métier le moins ennuyeux que je pouvais faire, étant donné que la littérature n'est pas un métier.
Le 18 octobre 1955, Pierre Cipriot recevait Michel Léris et Claude Lévi-Strauss à l'occasion de la parution de Triste Tropique.
Je pense qu'il faut absolument que l'ethnographe élargisse le plus possible son cercle d'investigation.
Mais Herbart le fait même, il perd son isolement.
Il le perdra, tant pis. Je irais même jusqu'à souhaiter que des ethnographes apparaissent dans d'autres civilisations que les nôtres et étudient notre propre civilisation. Si nous devons arriver à la définition d'une nature humaine, je pense que ce n'est que comme cela que nous pouvons y arriver. Je souhaite vivement que cesse cette espèce de division actuelle de population en population que j'appellerai ethnographiante et population que j'appellerai ethnographiée.
Oui, nous sommes tous, nous méritons tous d'être ethnographiés.
Bien sûr.
Mais est-ce que vous croyez que le point de départ, contrairement, enfin, il me semble que dans votre œuvre, vous-même, qui tourne tout entier autour de votre expérience individuelle, vous vous conduisez comme un ethnographe. Et vous êtes l'ethnographe de vous, comme l'ethnographe essaye d'être le psychologue des autres, si je puis dire.
Je pense en effet que j'ai essayé de m'appliquer à moi-même les méthodes qu'on m'avait enseignées à appliquer en ethnographie. Ce que je puis dire...
Vous vous regardez avec la même curiosité et la même surprise, quelquefois.
Et j'oserais dire le même mélange de sympathie et d'antipathie.
C'est cela, oui.
Oui, mais c'est qu'il s'agit toujours, partant d'une expérience humaine quelconque, et les sociétés primitives ne sont qu'une forme privilégiée de cette expérience quelconque, d'arriver à formuler des conditions qui soient générales et valables pour l'homme. Et si nous lisons Michel Léris avec passion, bien qu'il parle de lui, c'est que justement il parle de l'homme, de même que l'ethnographe
Exactement.
Parle de l'homme quand il étudie les Bororo ou les Nambikwara ou les Dogon.
Il faut penser comme Lévi-Strauss que l'ethnographe est quelqu'un dont la tâche essentielle est de revivre comme une expérience personnelle la vie des sociétés qu'il étudie. Revivre comme une expérience personnelle la vie des sociétés qu'il étudie, ça l'amène nécessairement à adhérer aux aspirations et aux revendications de ces sociétés.
février 1933. Demain matin vers les 7h, nous entrerons au port de Marseille, à moins que d'ici là le bateau ne brûle, ne coule, ou que le mistral devenu très violent ne nous oblige à attendre de longues heures devant l'estac avant de pénétrer dans le port. J'ai rangé les papiers dans la caisse bureau, bouclé mes valises, préparé mon linge pour demain matin. Dans ma couchette, j'écris ces lignes. Le bateau oscille légèrement. J'ai l'esprit net, la poitrine calme. Il ne me reste rien à faire, sinon clore ce carnet, éteindre la lumière, m'allonger, dormir et faire des rêves.
Après avoir vécu intensément ces 2 années, il est certain que rentrer à Paris ne sait plus très bien quoi faire. Il faut dire aussi qu'il était parti en 1930, donc 30-31, par souci de rompre également d'un point de vue psychologique et personnel, par le souci de rompre avec le milieu littéraire parisien, et notamment avec tout ce qui tournait autour du surréalisme. Il ne faut pas oublier qu'en 1929, c'est aussi un événement capital, il entre en psychanalyse. Donc il n'est pas bien dans sa peau, il sent très mal dans sa peau. Il est tombé sur un psychanalyste compréhensif, qui était le docteur Borel, puisque celui-ci l'autorise à partir pendant 2 ans, en cours d'analyse. Enfin, je ne sais pas si actuellement on ferait de même.
L'origine de l'âge d'homme, c'est Georges Bataille, avec qui j'ai toujours été très lié, qui devait avoir la direction d'une collection de livres érotiques apparaître sous le manteau. Il m'avait demandé de lui donner quelque chose. J'avais refusé catégoriquement. Je ne me voyais absolument pas écrivant un roman érotique. J'ai fini, comme il insistait, et moi-même ça m'ennuyait, comme j'aimais beaucoup, j'admirais beaucoup, ça m'ennuyait de ne rien lui donner pour cette collection. Et j'ai fini par lui faire la proposition suivante. Je lui ai dit, mais si je te donne des souvenirs, une sorte d'autobiographie touchant à l'érotisme, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Il m'a dit oui. Et alors, j'ai rédigé le livre en question, dont l'armature, en ce le fil conducteur, m'a été fourni, comme je le raconte dans le livre, par la trouvaille que j'avais faite par pur hasard. J'étais à ce moment-là le secrétaire de rédaction de la revue Document, dont Bataille était le secrétaire général, cherchant, je ne me rappelle absolument plus quel document iconographique pour un article qui devait paraître dans la revue, j'étais allé feuilleter des albums chez Giraudon, quand je suis tombé sur cet extraordinaire, non pas diptyque, parce qu'il paraît que c'est 2 tableaux jumelés, mais il ne s'agit pas d'un diptyque au sens strict, ces 2 admirables tableaux de Cranach, qui ont été malheureusement détruits pendant la dernière guerre, Lucrèce et Judith. Et ça m'a paru absolument extraordinaire. Enfin, l'opposition de ces 2 figures, la femme qui tue et celle qui se tue. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de répartir, en somme, entre ces 2 figures, de ces 2 figures opposées et complémentaires, ce que j'avais à dire dans l'âge d'homme. Donc il y eut une première version qui a été faite comme ça. Et puis, la collection ne s'est pas faite parce que ces éditeurs ont eu, comme il arrive souvent aux éditeurs de livres de cette espèce, ils ont eu des ennuis avec la police, ils ont été obligés de se tenir tranquilles. Ensuite, ça c'est encore une autre chose, sur le conseil de Bataille, je me suis fait psychanalyser parce qu'il y avait différentes choses qui pour moi ne tournaient absolument pas rond. Je buvais beaucoup, et souvent d'une façon désagréable, avec des souleries absolument ignominieuses. J'étais assez malheureux, j'étais dans des angoisses terribles au sujet de mon travail, quand il me fallait par exemple remettre à une date un article pour Document. Bref, ça n'allait pas du tout, et je suis allé me faire psychanalyser suivant le conseil que Bataille m'avait donné. Et alors ça, cette psychanalyse, ça m'a donné l'idée de reprendre ce livre qui était resté, je ne dirais même pas sur le chantier, puisqu'il était considéré comme achevé, il était resté dans mes tiroirs. Et ça m'a donné l'idée de le reprendre en le développant, en mettant d'autres choses que des choses simplement érotiques. Et c'est devenu l'âge d'homme. La première version en constitue le noyau, très légèrement remanié, en ce sens que, quand ça devait paraître sous le manteau, je ne m'étais absolument pas gêné au point de vue vocabulaire, alors que pour le livre ordinaire, j'étais obligé, non pas de retrancher, mais de gazer un petit peu les expressions. Enfin, c'est devenu ce livre. Mais alors, la critique que je fais maintenant de ce livre, c'est que surtout vers la fin, je le trouve beaucoup trop psychanalytique. Je parle ouvertement de complexe d'Oedipe, etc. Ça me paraît sans grand intérêt. Ce à quoi je reste attaché dans L'âge d'homme, c'est au fond les aspects poétiques du livre. Le récit, enfin les comptes rendus de certaines expériences d'enfance, des choses comme ça. Mais la partie en quelque sorte théorique et interprétative me paraît vraiment même assez faible et en tout cas sans véritable intérêt. Là, il me semble que je m'étais écarté de ce conseil de Max Jacob, moi à qui on avait dit qu'il fallait bien se garder d'employer le vocabulaire psychologique et de jargonner, quand je me mets comme vers la fin de l'âge d'homme à parler en propre terme de complexe d'Oedipe, je suis fort loin de m'exprimer dans le langage de la plus vieille femme de la maison.
Un taciturne qui, pour abolir sa geôle, s'efforce de bavarder.
France Culture, pour Michel Léris, Signe de vie.
Un coupable qui produit des livres pour gagner son pardon. Un initié à une confrérie qui ne comprend que lui.
Le 8 janvier 1938, Michel Léris prononce au Collège de sociologie la célèbre conférence intitulée « Le sacré dans la vie quotidienne ». Fondée par Georges Bataille, Roger Caillois et Michel Léris, le Collège de sociologie marque une autre étape de l'évolution de Michel Léris, même s'il garde quelques distances à l'égard du projet politique du Collège. Jean Jamin.
Il y a dans cette conférence deux choses. La première qui est une forme d'ironie légère par rapport à cette notion de sacré, dont Bataille et Caillois font grand cas, qui est un modèle explicatif de la société. Léris, qu'est-ce qu'il va chercher? Là, il va chercher son sacré, mais alors le plus quotidien et le plus, le plus banal qui soit. Donc une pointe d'ironie par rapport à, évidemment, ce grand concept du sacré qui serait organisateur des sociétés. Léris ne parle pas du tout du sacré organisateur d'une société, mais sinon de lui-même. Et ce sacré, c'est les cabinets, c'est la salamandre, enfin bon, c'est plein de choses. C'est la géographie de l'endroit où il vivait quand il était enfant. La deuxième chose, c'est que ce sacré dans la vie quotidienne, qui est un texte, je dirais, important, fait la charnière entre l'âge d'homme, qui vient d'être publié, enfin qui va être publié, mais qui était achevé, je crois, en 1936, entre l'âge d'homme et la règle du jeu, dont le sacré dans la vie quotidienne annonce, si je puis dire, la problématique d'ensemble. Alors là, c'est un texte charnière, ça, incontestablement, qui permet de penser le passage de l'âge d'homme à la règle du jeu. Et le passage, je dirais, d'une conception, alors là on retombe dans la langue secrète ou ces choses-là, d'une conception qu'il avait dans l'âge d'homme, disons cathartique du langage, enfin le fait d'écrire devait, d'une certaine façon, lui permettre d'aller mieux. Et se rendant compte que ça ne va pas mieux, le langage, il est pris dedans. Et ce sera un tout petit peu, si je puis dire, la problématique de l'âge d'homme. Enfin, c'est que le langage, en quelque sorte, c'est à cette contradiction, en quelque sorte, c'est qu'il est à soi, et c'est qu'il est en même temps aux autres. Enfin, bon. Voilà. Et ça, il insistera là-dessus, sur cette double fonction du langage. Il permet de communiquer avec les autres, mais il permet aussi de penser pour soi. Ça, c'est le problème.
Qu'est-ce pour moi que le sacré? Plus exactement, en quoi consiste mon sacré? Quels sont les objets, les lieux, les circonstances qui éveillent en moi ce mélange de crainte et d'attachement? Cette attitude ambiguë que détermine l'approche d'une chose, à la fois attirante et dangereuse, prestigieuse et rejetée, cette mixture de respect, de désir et de terreur qui peut passer pour le signe psychologique du sacré. Il ne s'agit pas ici de définir mon échelle de valeurs, dont ce qu'il y a pour moi de plus grave et de plus sacré, au sens commun du mot, occuperait le sommet. Il s'agit plutôt de chercher, à travers quelques faits très humbles, empruntés à la vie quotidienne et situés en dehors de ce qui constitue aujourd'hui le sacré officiel, religion, patrie morale, de déceler au moyen de quelques menus faits quels sont les traits qui pourraient permettre de caractériser qualitativement mon sacré,
et aider à fixer la limite à partir de laquelle je sais que je ne me meus plus sur le plan des choses ordinaires, futiles ou sérieuses, agréables ou douloureuses, mais que je suis entré dans un monde radicalement distinct, aussi différent du monde profane que le feu l'est de l'eau. Il paraît évident que tout ce qui nous fascina durant l'enfance et nous a laissé le souvenir d'un pareil trouble doit être en première ligne interrogé. Car de tous les matériaux dont nous pouvons disposer, ces matériaux extraits des brumes d'enfance ont quelque chance de représenter les moins sophistiqués. Me reportant mentalement à mon enfance, je retrouve d'abord quelques idoles, quelques temples et d'une manière plus générale, quelques endroits sacrés. En premier lieu, quelques objets appartenant à mon père, symbole de sa puissance et de son autorité. Son chapeau haut de forme à bord plat, qu'il accrochait le soir au porte-manteau lorsqu'il rentrait de son bureau. Son revolver, un Smith & Wesson à barillet, dangereux, comme toutes les armes à feu, et d'autant plus attirant qu'il était de métal nickelé. Instrument qu'il rangeait ordinairement dans le tiroir d'un secrétaire ou dans sa table de nuit, et qui était l'attribut par excellence de celui à qui il incombait, entre autres tâches, de soutenir la maison et de la protéger des voleurs. Son porte-or, dans lequel il mettait des louis, sorte de coffre-fort bijoux qui fut pendant longtemps l'apanage exclusif du nourrisseur et qui nous semblait à mes frères et à moi, jusqu'à ce que nous en eussions reçu un pareil en cadeau de première communion, la marque de l'âge viril.